constaté, est compliqué à Saint-Gilles pour de plus en plus de ménages, encore plus quand on est seul et encore plus quand on est seul avec des enfants, mais même pour des ménages classiques de deux personnes, c'est compliqué. Évidemment, plus on a des difficultés financières, plus c'est compliqué de se loger également. Alors on a déjà pointé à plusieurs reprises les déficiences en termes de quantité de logements sociaux sur la commune. Effectivement, on est dans un des taux les plus faibles de la région, qui n'augmente pas par ailleurs. Moi, j'aurais quand même envie de vous entendre aussi complémentairement sur deux aspects. C'est la socialisation d'un certain nombre de logements qui ne sont pas des logements sociaux. Je pensais que ça prend du temps de produire des logements sociaux. Par ailleurs, il faut trouver les terrains à Saint-Gilles et les capacités de le faire, ce qui n'est pas évident. Enfin, encore faudrait-il avoir la volonté de le faire, mais maintenant même que vous ayez la volonté de le faire, ça prendrait du temps. Il reste deux outils importants dont vous disposez. L'agence immobilière sociale communale, dont le parc de logements n'augmente pas, contrairement en moyenne aux autres agences immobilières sociales de la région, puisque le parc des AIS au niveau régional, des agences immobilières sociales qui louent donc des biens qui appartiennent à des propriétaires privés, mais à des loyers sociaux et à des conditions sociales. Ce parc augmente de manière très importante au niveau régional, les soutiens régionaux augmentent de manière importante. On a presque triplé ce parc en 10 ans, mais à Saint-Gilles, pas. Ça stagne complètement, on n'a pas l'impression que ce soit une priorité. Deuxième aspect, c'est les logements communaux et la socialisation des logements communaux. Il est normalement prévu par le Code du logement qu'il y ait une commission d'attribution, une commission communale d'attribution. Alors certes, il y a une petite bataille juridique autour des articles du Code qui visent cette commission d'attribution. Néanmoins, la volonté du législateur régional était claire que dans chaque commune, il y ait bien une commission d'attribution de ces logements communaux, qui doit être donc distincte de celle du CPS, s'il y a des logements CPS, c'est ça le petit combat juridique. Néanmoins, la volonté est bien là que ça existe dans chaque commune, et d'ailleurs ça existe dans pas mal de communes, et ces commissions d'attribution sont aussi l'occasion de faire en sorte que se rencontrent des acteurs associatifs et les pouvoirs publics, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'attribuer, mais il s'agit de réfléchir ensemble à la politique de logement communal. C'est sans doute une piste qu'il y aurait lieu de poursuivre. Alors, vous n'êtes pas dans une obligation légale formelle à ce stade de mettre en place cette commission d'attribution, puisque l'article a été cassé et devrait être rétabli bientôt. Néanmoins, ce serait quand même intéressant que vous fassiez comme c'est fait dans d'autres communes. Par ailleurs, beaucoup de personnes disent ou pensent que la politique urbanistique qui est mise en place à Saint-Gilles, si elle produit un certain nombre d'effets positifs, par exemple en termes de protection du patrimoine, des choses comme ça, a tendance, via les exigences qui sont posées par les services d'urbanisme, à augmenter les prix du foncier à Saint-Gilles ou à exercer une pression supplémentaire sur les prix du foncier à Saint-Gilles, parallèlement à d'autres communes, ou en comparaison avec d'autres communes. Et c'est vrai que si on regarde les prix de l'immobilier à Bruxelles, mais qu'on fait un focus sur Saint-Gilles, on se rend compte que, alors qu'ils ont cru dans l'ensemble de la région, de manière importante, c'est encore un peu plus le cas à Saint-Gilles. Et donc Saint-Gilles est une commune, ça fait longtemps que l'accès au logement est difficile, force est de constater qu'il l'est de plus en plus, et que le problème est de plus en plus aigu, et que la politique urbanistique communale ne semble en tout cas pas utilisée pour essayer de limiter la casse, mais qu'au contraire, elle tend à mettre une pression supplémentaire sur le prix des logements. Je parle du prix des appartements, pas nécessairement des maisons complètes, mais le prix d'appartements ou d'unités de logement. Et donc, complémentairement aux questions qui vous sont posées par les représentants de toutes autres choses, j'aurais aimé avoir quelques informations sur ces questions complémentaires. Je vous remercie déjà.
Qui demande la parole, M. Spinet ?
Monsieur le Président, mais par rapport aux réflexions qui ont lieu notamment sur les questions de l'AIS, il convient peut-être de faire part, mais effectivement, ça n'a pas fait l'objet d'une grande publicité jusqu'alors. Le CPS, en lien avec l'AIS, a l'occasion, avec les chemins du logement, de développer un certain nombre de dispositifs Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu un travail d'assainissement de notre parc immobilier dans la Yesse et de structuration de celle-ci pour la rendre plus efficiente, mais qu'à côté de ça, nous avons depuis lors développé avec le CPS un renforcement des politiques en matière de logement de transit par rapport à un certain nombre de publics, que nous nous sommes insérés dans des projets pilotes avec des résultats particulièrement intéressants en matière de housing first, c'est-à-dire sans passer par le logement de transit, sans passer par les étapes. Nous avons essayé de mener des épreuves pilotes de logement direct de sortie de la rue avec des partenariats, dans le cadre du partenariat régional avec le SMES ou avec un fermier de rue. Nous avons pu développer quelques accueils directement en sortie de rue. Que également, et je pense que la IES de Saint-Gilles atteint un niveau de taux accepté dans la législation actuelle de logements de transit et de logements pilotes, développer aussi un partenariat avec le CEMO en termes d'accompagnement de jeunes 18-25 ans qui rencontrent des problématiques de logement, développer ce que nous appelons les codes autonomes à projet, les projets CAP, qui font aujourd'hui école dans l'entièreté du territoire bruxellois, mais aussi parce que nous avons développé un projet Excel pour ne pas que ça dépasse nos frontières communales et que des projets pilotes existent à Charleroi ou ailleurs, que le CAP Saint-Gillois fait école aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est le fruit d'un partenariat entre un partenaire d'aide à la jeunesse et un partenariat CPS et un partenariat AIS. Alors c'est clair que le choix que l'AIS a aujourd'hui posé de concentrer son parc de logements sur le territoire Saint-Gillois est une contrainte, parce que vu le coût du bâti Saint-Gillois, c'est vrai que ne pas s'étendre sur d'autres communes à développer ce logement AIS, nous cherchons des partenariats privés. Je pense que M. le bourgmestre, M. l'échevin des finances ont rencontré les demandes de l'AIS en la matière pour favoriser les propriétaires qui souhaiteraient confier leurs biens, parce qu'il convient de concéder que les logements et les loyers concédés par les AIS ne sont pas toujours intéressants pour les propriétaires privés, de concéder également des avantages fiscaux pour favoriser le propriétaire concéderait ces logements en AIS sur le territoire de notre commune. C'est vrai qu'on a pris position lors du conseil communal précédent et le conseil communal qui l'a précédé également à votre initiative. Et donc effectivement, c'est important que ceci soit évoqué aussi dans cette question. Alors c'est clair que les logements en lien avec le CAFA et les services logements du CPS, dont la cellule Habitat Accompagné qui fait de l'accompagnement en logement pour maintenir les gens en logement et prévenir les expulsions, parce que c'est là que nous avons un gros travail aussi, c'est un travail de prévention des expulsions. Je viens de préciser que le CAFA et les assistants sociaux du CPS sont présents aux audiences qui tentent à expulser sur demande des propriétaires un certain nombre de locataires, sont invités et sont présents en lien avec notre nouvelle juge de paix pour prévenir un certain nombre d'expulsions. Et c'est vrai qu'un certain nombre de prononcés sont postposés pour voir si et dans quelle mesure il est possible que le CPS intervienne plutôt pour prévenir l'expulsion. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi des éléments importants qui sont intéressants à relever. Et je gage que les mêmes coopérateurs que sont le CAFA, le CPS et d'autres opérateurs présents dans la lutte contre le mal logement, nous souhaiterions venir avec des propositions en matière de réquisition publique et de voir dans quelle mesure nous pourrions saisir un certain nombre de propriétaires et leur proposer des alternatives en la matière pour, pourquoi pas, proposer en partenariat avec l'AIS de la gestion en la matière. Voilà des éléments de réponse que je voulais donner pour compléter votre réflexion.
Nous avions prévu de nous rencontrer, je pense, il était prévu dans mon agenda que je vous vois à la fin du mois. Je ne sais pas, vous me confirmerez si c'est maintenu ou si ceci est l'objet de notre rencontre.
Non, non, je confirme.
Alors, votre questionnement porte évidemment sur des questions qui relèvent d'enjeux majeurs. Le logement est effectivement un enjeu majeur. Je peux en parler vraiment bien, je pense, puisque j'ai par le passé, effectivement, comme Jean, pu être président de CPS. Mais en tant que cheville du logement, la situation reste aussi critique, très régulièrement, dans toutes mes permanences, on vient me demander des logements à corps et à cri. Et ce qui se demandait avant, dans des situations qui étaient vraiment des situations de crise ou des situations particulières socialement, maintenant devient une généralité qui remonte jusqu'à des familles qui, effectivement, ont quelquefois même deux revenus. Enfin, c'est vraiment très, très difficile d'assumer soit l'insalubrité, soit les loyers trop chers, soit l'obligation de devoir partir dans des conditions difficiles. Alors, je vous réponds aujourd'hui, même si les enjeux peuvent être aussi régionaux la plupart du temps, mais ici je vous réponds avec ma casquette d'échevine saint-gilloise du logement. Mais à côté de cette casquette, je veux aussi être le porte-parole, comme l'a dit Jean, de tous les acteurs saint-gillois, publics, s'entend, mais aussi de l'associatif. Enfin, je pense qu'à Saint-Gilles, on a quand même la chance d'être doté d'énormément de mécanismes qui travaillent autour de la question du logement. Jean Espinette en a parlé déjà, il y a le CPS, il était accompagné, le foyer du Sud, l'AIS, le CAFA, le fonds du logement aussi est assez présent. Nous avons des logements de transit, des logements pour femmes violentées, on a vraiment des tas de dispositifs, sans compter ce que font effectivement des associations qui sont installées et qui sont actives sur ces questions. Alors, vous parlez de logements décents, de logements à un loyer raisonnable, du manque de logements tout court, mais avant que j'entre dans le détail de vos questions, il faut quand même remarquer qu'à Saint-Gilles, vu la petitesse de son territoire, on s'illustre quand même par une action très forte. Vous l'avez relevé en cette matière. Bon, on a eu la chance de déployer il y a bien longtemps ici d'anciens collèges. On a démarré une régie foncière composée quand même de 900 logements et qui ne fait que s'accroître, qui est la deuxième plus grande région foncière du pays, alors que nous sommes une toute petite commune. Et nous avons de très nombreux projets que nous ambitionnons de mener dans le cadre de plein de politiques différentes. Cette région foncière, je numérerai les politiques évidemment, c'est les contrats de quartier, c'est des partenariats avec une série de partenaires publics ou autres, mais cette région foncière, elle a quand même eu pour effet dans notre commune d'apporter une régulation du marché locatif, une stabilisation de familles sur notre territoire, de lutter contre les chantres et l'insalubrité, puisque la vocation de la régie, c'est aussi, par exemple, d'acheter, même si le bâtiment est inintéressant, une dent creuse ou une maison incendiée, ou d'avoir de servir comme de levier pour essayer de relancer une rue. Elle revalorise aussi donc l'acheter au patrimoine. Cette régie foncière, aujourd'hui, elle a aussi évolué, elle s'est soumise aussi à la grille, au fil du temps, à la grille AIS qui fixe des loyers au niveau régional dans une réglementation figée au niveau régional, ce qui a eu pour effet d'ailleurs d'occasionner un grand problème de trésorerie à la régie qui a donc revu beaucoup de ses loyers à la baisse et doit assumer cette perte. Nos loyers n'étaient déjà pas chers, mais là avec la grille ils ont dû baisser encore un peu, mais bon, c'est un fait. Alors, à côté de la régie, évidemment, le foyer est un partenaire incontournable. Alors évidemment, j'ai pris note de ce qu'il m'a proposé de vous répondre. Le foyer a du mal, comme l'a souligné également M. Marron, à se déployer, puisque notre territoire est dense, est assez bâti. Donc c'est un partenaire incontournable qui a une grosse masse de logements, mais je vous expliquerai les difficultés par la suite, qui a quand même du mal à continuer à progresser. Évidemment, le fait de s'être maintenant mis en partenariat, enfin, ils ont fusionné avec le foyer avec le foyer Forestois, devenu le foyer du Sud, fait que grâce à ça, on récupère de la réserve. Ce sera évidemment peut-être, ça occasionnera des déplacements de Saint-Gilloise un peu vers Forêt, puisque la zone devient mixte, mais là, il y a de la réserve foncière territoriale qui permet encore de développer des projets. Alors, l'AIS, on en a parlé. Compte plus de 100 logements, c'est un chantier qui a progressé peu, mais qui a par contre de très grands projets en chantier, j'ai entendu, on en parle régulièrement, et notamment que ce soit aussi le First ou d'autres bâtiments que j'ai eu l'occasion de voir et pour lesquels on m'a soufflé en disant bon, la régie, c'est trop tard, on a fait tout ce qu'il fallait avec la IS. Bon, donc on a notre concurrence à peine. Donc j'ai appris que la IS avait quand même pas mal de projets en cours. Alors, vous parlez de l'urbanisme. Mais l'urbanisme, c'est vrai, on peut dire qu'en raison du beau patrimoine dont nous pouvons disposer à Saint-Gilles, et en plus il est connu pour être exigeant notre urbanisme, mais on a quand même, certes, mais on a quand même un très beau bâti. Effectivement, il est soucieux de préserver la qualité de ce patrimoine, ce qui sans doute a un effet aujourd'hui peut-être inattendu et différent de par le passé. Mais je tiens quand même à vous dire que l'urbanisme, à sa manière, tout comme l'AIS, est un moyen de faire d'agir sur le logement immobilier privé. L'AIS, elle va permettre à des propriétaires de mettre en location du patrimoine insalubre et enfin essayer de récupérer sur le terrain de la sécurité. Mais l'urbanisme aussi, l'urbanisme tente d'obtenir du logement de qualité, mais est aussi très attentif à opérer de la mixité dans les tailles de logements au sein d'un même immeuble, par exemple. Quelquefois, on nous le reproche. Néanmoins, parce que c'est vrai que si on crée 20 studios dans une maison, ça donne 20 logements, mais on sait que ce sera un turnover, ce ne sera pas qualitatif. On essaye de mixifier les tailles de logements pour rencontrer des demandes de familles ou de personnes seules diverses. En matière de finances aussi, comme vous l'avez dit, on essaye d'avoir des stratégies pour inciter à la reprise d'un immeuble. Bon, vous l'avez dit, on a travaillé pendant 2 années consécutives avec le CODES et le RBDH. Eux nous soumettaient leur listing et leur listing complet d'immeubles qu'ils avaient imaginé ou détecté être à l'abandon. Nous confrontions avec nos données à 2 années consécutives. Il y en a qui ont fait l'objet d'un permis, c'est en cours. Il y a un problème de succession qui fait qu'on est informé que ça va prendre du temps. Il y a mille et une raisons qui justifient quelquefois qu'on ne taxe pas ou qu'on accepte d'attendre en collège taxe. Il peut y avoir une explication valable. Donc, on a travaillé là-dessus et par ce biais, on a effectivement récupéré plus de 100 logements qui ont pu être remis sur le marché locatif. Cette politique est donc encore maintenue. En ce qui concerne les AIS, comme on vous l'a dit, on a pris récemment l'option ici au Conseil communal de favoriser donc les propriétaires qui donneraient leurs biens dans le cadre du prêt-compte immobilier, donc de les exempter s'ils le concèdent à une AIS pour créer du logement. Alors, pour en revenir plus spécialement à... ce que je veux dire, c'est qu'on prend de multiples, par tous les moyens, on essaye d'agir au maximum. On a de grands partenariats avec les partenaires publics, puisque, comme vous l'avez dit, le logement public n'est pas toujours social. On travaille, par exemple, avec la SPAR. On a développé un très, très beau projet, par exemple, du Danemark avec la SPAR. On a travaillé avec CityDev. Prochainement, il y aura quelques appartements qui seront mis sur le marché acquisitif. Parce qu'on fait un travail régie foncière CityDev. Enfin, je vous les détaillerai, mais vous avez parlé à un moment de l'idée d'affecter le produit des taxations que nous avons obtenues sur les logements à l'abandon, plus spécialement à aider, et là vous avez dit non pas le logement public, mais vous avez dit le logement social. Alors là malheureusement c'est un peu complexe parce que en général les budgets communaux ne servent pas à renflouer la région. C'est plutôt même un peu l'inverse en général, la région aide à mener des politiques au niveau communal. Donc c'est à la région à budgéter la SLRB et à permettre de développer des projets qui ont une ampleur régionale et une vision stratégique régionale du logement. Mm-hmm. Mais je tiens tout de suite à vous rassurer que l'argent qui sort, que ce soit de cette taxation ou des charges d'urbanisme, tous les budgets possibles de la commune sont affectés aux politiques que la régie foncière veut mener à chaque fois qu'une occasion se présente. Donc que ce soit un immeuble incendié, comme il y a eu une explosion récemment, n'importe quoi, quand une opportunité intéressante se présente, les budgets viennent en soutien, notamment le charge d'urbanisme, mais viennent en soutien de la régie foncière. Donc comme je vous l'avais dit, le logement public ne veut pas dire logement social. On a eu un grand partenariat avec le fonds du logement. On a un partenariat donc, dans le cadre du contrat de quartier Morichard, là aussi avec CityDev pour créer du logement. On a un partenariat fréquent avec la région évidemment autour des contrats de quartier qui ont apporté quand même du logement qualitatif dans des quartiers plus difficiles de la commune, puisqu'en fait dans le haut de la commune, la commune laisse faire relativement privé puisque le pas est pris ici. C'est pas ici que la régie a envie d'investir. Oui, donc à Saint-Gilles, on parlait des attributions aussi. Effectivement, chaque partenaire public a son public cible en quelque sorte. Le foyer va se diriger vers les personnes qui sont le plus souvent allocataires et puis sur lesquelles un calcul de revenu, une procédure va être mise en place par la SRP, un calcul de revenu va s'opérer, alors que nous, du côté de la régie, on essaie plutôt de miser sur le revenu moyen. C'est un patrimoine communal et qui obéit à une procédure établie par le conseil communal. Effectivement, nous avions débattu d'un règlement sur les attributions qui devra être effectivement réouvert puisque cette matière est en discussion. La régie foncière respecte, comme je vous l'ai dit, les cris aussi en matière de loyer. Alors maintenant, vous énonciez des chiffres que vous aviez repris entre 2005 et 2013. Alors le foyer me dit que... Enfin non, je vais d'abord parler de la régie foncière, c'est peut-être pas parce que c'est mon domaine, mais... La régie foncière a créé 152 logements entre 2005 et 2013. Encore 72 logements depuis 2013, donc on est maintenant, donc depuis 2005, à 224 logements créés par la régie foncière, qui englobe donc bien sûr les opérations contrat de quartier, les immeubles isolés, et il faut bien dire qu'on vient d'être topé par les 52 logements de la SFAR, là, en une fois, l'année passée. Donc, on est à 224 logements depuis 2005, et le foyer, vous disiez 15 logements, mais non, ils m'ont dénombré 67 logements, c'est-à-dire 28 logements, en tout cas depuis la date que vous avez donnée, 2005. 28 logements rue de la Source et 39 rue de Mérone et rue de Russie. La commune, le foyer, me demande de vous dire qu'effectivement la commune étant tellement urbanisée depuis 1930, pas de réserve, il me rappelle que pour financer la création de nouveaux logements, il faut des crédits budgétaires régionaux, qui leur sont octroyés par la SNFB dans le cadre de plans quadriennaux. Ces mêmes budgets doivent malheureusement aussi être utilisés pour les rénovations. Du financement peut encore provenir pour le foyer d'anciens plans du logement, ce qu'on appelle Alliance Habitat, mais le foyer ne peut par exemple pas faire appel à des capitaux sur le marché bancaire privé. Donc ils sont vraiment tenus à leur enveloppe budgétaire. Ils reçoivent aussi une allocation de solidarité annuelle de 1,7 million, mais ils doivent l'utiliser pour rembourser des crédits budgétaires, donc normalement ils doivent l'utiliser pour ça, mais cette allocation comble à peine les déficits de loyer dus aux faibles paiements et aux faibles revenus des locataires. Enfin, tout ceci, c'est assez technique, mais le foyer me demande de vous l'expliquer, parce que c'est pour cette raison qu'on estime la création au mètre carré d'un logement foyer Saint-Gillois, enfin du Sud maintenant, à 1350 euros du mètre hors terrain. Donc, pour un logement moyen de 70 mètres carrés, le foyer doit avoir un minimum de 94 500 euros. Ce qui implique que, à quoi on veut en arriver en vous disant tout ça, c'est que pour trouver des immeubles de taille suffisante qui permettraient de créer un logement qu'à 94 000 euros, parce que c'est très bien qu'avec les marchés publics et tout ça, 94 000 euros, 70 mètres carrés, c'est impossible. Donc, pour en arriver à trouver, à respecter ce budget, il faut trouver donc des immeubles assez grands qui permettent de faire des économies d'échelle. Et le problème, c'est que les foyers sur le territoire Saint-Gillois, ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, que moi et la régie française, on a plus facile parce qu'on travaille de façon ponctuelle dans des petites rues, sur des petites infrastructures sur lesquelles on colle à un subside. Alors, qu'a fait le foyer en conséquence? Il a décidé plutôt d'investir l'argent dans la rénovation de son patrimoine existant, puisqu'il a presque 1000 logements. Donc sur la partie saint-gilloise du patrimoine, maintenant il dit ça, puisqu'il y a une partie forestoise, 100% des logements sont équipés en salle de bain aujourd'hui, 100% des logements en double vitrage, toujours 100% en chauffage central, et en termes de sécurité, 100% des logements n'ont plus de risque d'intoxication au monoxyde de carbone, ils sont équipés de détecteurs de fumée, et conformes aux normes européennes pour les ascenseurs. Les deux tours de 18 étages sont aussi conformes aux normes incendie et de construction. Et toutes les façades ont été isolées. Alors pour en terminer, donc voilà, ils ont opté pour la rénovation plus que pour la création de nouveaux logements. Je vous dis, alors les déploiements avec Forêt qui s'organisent. Alors vous avez évoqué le droit de gestion publique. Alors là, j'ai le plaisir de vous en parler puisqu'on a été une des communes à faire ça. Et c'est pas rien. La régie foncière, dans le cadre du contrat par Kalsenberg, a fait usage de ce droit de gestion. Il est apparu que ça ne fonctionne pas bien, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Ça demande une gestion très difficile parce qu'il ne faut pas croire que les propriétaires ne vivent quand même pas bien. Et même s'ils adhèrent au projet, ils tentent à contourner ce projet. En définitive, c'est lourd à porter et ça finalement occasionne au final des coûts importants à la régie qui doit le supporter, sans compter la gestion de ce projet qui doit se faire en partenariat avec le propriétaire, puisque la régie n'est pas propriétaire des bâtiments. Ça a été très complexe. Et finalement, au fil encore, ça ne garantit pas la stabilité à long terme des locataires, puisqu'au bout d'un temps, l'immeuble revient après la gestion publique. Nous, nous mettons en location à des personnes qui sont dans nos listings régie foncière, mais finalement, on les met dans un bail dont ils n'ont pas la garantie que le propriétaire, après la fin de la gestion, ne demandera pas qu'ils partent, ce qui n'est pas le cas des autres dans le listing qui vont dans des logements où ils ont la garantie d'être stabilisés. Il y a beaucoup de problématiques. Et alors, vous parliez de la proposition d'occuper de façon précaire des logements sociaux. Moi, je trouve que c'est bien. Mais le foyer m'a donné une réponse. Donc, le code du logement prévoit que lorsque les logements non conformes sont en attente d'une rénovation lourde, la CIS, donc le foyer, peut, si le délai prévu pour le délai du chantier est long, signer une convention d'occupation précaire avec une association qui se chargera de la mise à disposition de ces logements ainsi que du suivi. Ces conventions sont d'une durée d'un an et peuvent être prolongées annuellement. Cette convention doit être approuvée par la CNRP. Alors, le foyer du Sud versus la Gine, mais enfin le foyer du Sud, me dit qu'à Forêt, effectivement, le foyer a été signataire de deux conventions de ce type, l'une avec la FEBUL et l'autre avec le CPAS de Forêt. Et ces conventions sont actuellement terminées à cause de l'arrivée du chantier, puisque c'était justement dans des logements qui allaient faire l'objet d'une autre rénovation. Ces occupations précaires concernaient le site dit des blocs jaunes. Donc vous voyez, c'est une installation. Sur Saint-Gilles, le foyer n'a aucun logement malheureusement en attente d'une lourde rénovation. Par conséquent, aucune occupation précaire malheureusement n'est possible pour les logements sociaux qui sont implantés sur le versus Saint-Gilles, dans notre commune. Et alors j'en termine avec votre allusion aux mesures fédérales qui devraient menacer les squatteurs de logements vides. Nous, à ce stade, au niveau communal, nous n'avons reçu aucune information à ce sujet, ni aucune demande particulière. Rien ne s'est mis en place, en tout cas, nous approcher, ou approcher M. Bourbesse, qu'on a parlé en ce sens. Je ne pense pas que notre commune puisse être mise en évidence sur cette question. La seule chose que nous voulons dire, c'est que la commune, elle réagit face à un squat uniquement lorsque celui-ci enfreint des législations communales élémentaires comme portant atteinte à la santé publique, la salubrité publique, des nuisances intolérables. Et donc il s'agit de l'intérêt général qui prévaut sur une situation particulière individuelle. Et nous ne sommes pas, et nous avons pu le faire par le passé, par exemple, chez Forêt, il y a eu un développement anormal d'un squat. Ok, mais nous n'avons pas cette vision.
Merci. Le sujet méritait du temps, donc Madame Lechevin a largement dépassé son temps, si bien qu'on sera indulgent en ce qui concerne votre temps académique aussi.
Oui, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'on veut bien conserver notre rendez-vous avec vous, si c'est possible. Parce que, finalement, c'est tellement complexe, on ne veut pas faire. Nous, il nous a semblé qu'il y avait, on reste un peu bloqué sur cette différence entre un logement public et un logement social, et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait plus. C'est quand même, c'est pas le même, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Voilà. Mais je ne sais pas trop quoi dire de plus, sinon c'est très...
Je comprends bien, mais vous savez, je vais vous dire que dans les permanences, les gens qui viennent me voir, et qui maintenant, je les renvoie aussi, toujours s'inscrivent à la régie foncière néanmoins, même si les règlements, des fois, on garde le revenu, ils ne sont pas toujours accessibles, mais le public commence de plus en plus à se ressembler dans les deux. L'un obéit au patrimoine communal, l'autre au patrimoine du logement social régional, mais...
Bien, voilà. Merci pour m'aider à cet échange bien utile lors de votre prochaine visite.
Voici par vos intermédiaires. Je peux même suggérer que vous envoyez la réponse écrite, peut-être, aux personnes. Parce que non, il y a beaucoup d'informations dans ce que vous avez dit. Ah, oui. C'est juste une proposition, pas une intervention. Ils se disposent.
Même la mettre sur Facebook.
Oui, la mettre sur Facebook, c'est vous. Ça, tout le monde, vraiment, est au courant.
Voilà.
Il y a des choses à compléter aussi, parce qu'on a oublié, par exemple, les secteurs de logement, du fonds du logement.
Oui, c'est vrai,
c'était oublié. Donc on peut documenter un peu mieux nos invités et donc vos surprises. Voilà.
Merci.
Ok. Merci pour votre visite et bonne soirée.
Merci à vous.